Osmose.
Osmose Radio.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Jean Revest. Bonjour, Jean Revest.
Bonjour.
Membre du collectif antinucléaire de Vaucluse, Cannes 84, et membre aussi de la coordination antinucléaire du Sud-Est. Pourquoi deux collectifs ?
Bien, tout simplement parce qu'on part du local, donc collectif vauclusien, et puis on s'est fédéré, on s'est regroupé, puisqu'on s'est aperçu que dans d'autres régions, dans d'autres départements de proximité, d'autres citoyens avaient les mêmes préoccupations que nous.
D'accord. Alors avant de commencer à parler de votre prochaine action, une marche de 12 jours du 15 au 26 avril prochain, une marche qui se fera entre plusieurs départements sur le triangle de la mort. Le triangle de la mort, Cadarache, Tricastin, Marcoule, c'est fort hein, comme image.
Alors c'est fort et en même temps ça correspond à une réalité. Malheureusement cette réalité elle n'est pas très visible. La radioactivité ne se perçoit pas, nos sens limités ne perçoivent pas la radioactivité. Mais oui, on est malheureusement situé dans la région la plus nucléarisée de France et d'Europe avec trois sites nucléaires importants, Cadarache, Marcoule et Tricastin.
Alors le dénominateur commun de ces deux collectifs, c'est l'arrêt immédiat du nucléaire. C'est pas de transition douce pour vous, c'est tout de suite ou jamais. Non, pas jamais, mais tout de suite.
Tout de suite, voilà. Et définitivement.
Et définitivement.
Oui, parce qu'il faut être tout simplement cohérent, ne serait-ce que du point de vue intellectuel. On ne peut pas d'un côté dire le nucléaire c'est dangereux, la radioactivité porte atteinte à la santé, attaque nos territoires, contamine, et dans le même temps dire on va en garder encore pour 10 ans, 20 ans, le temps que tranquillement on s'en sorte. Nous on estime qu'à danger immédiat, arrêt immédiat, c'est le simple bon sens.
Alors pour vous le nucléaire c'est la chronique d'une catastrophe annoncée.
Oui, alors on n'est pas les seuls à le dire d'ailleurs. Depuis l'an dernier, le président de l'autorité de sûreté nucléaire a avoué, admet et maintenant c'est reconnu que la France n'est pas à l'abri d'un accident, d'une catastrophe nucléaire majeure.
Alors pour briser le mur de l'omerta du lobby nucléaire, c'est pas ambitieux ça ?
Oui, comme tout acte citoyen de prise de conscience, les petits face aux gros, quoi. Je dirais, c'est une grande image classique. Briser le mur du silence et l'omerta, parce que depuis 50 ans, effectivement, dans notre pays et comme dans d'autres pays nucléarisés, le lobby a développé toute une idéologie, une pensée, un conditionnement des esprits pour nous faire accepter l'inacceptable.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que face au poids de ce lobby qu'est le nucléaire, vos actions, c'est un peu peanuts, quoi. C'est pas le pot de terre contre le pot de fer, c'est pas un combat contre des moulins à vent ?
Alors, contre des moulins à vent, ça serait bien, ça voudrait dire qu'on est dans l'éolien, donc quelque part, ça serait assez sympathique. Oui, bien sûr que le combat est inégal. Ils ont les millions, ils ont les milliards, ils contrôlent les médias, ils ont le personnel. Et nous, en face, on est, oui, des monsieur et madame tout le monde, des habitants de telle ou telle région. Mais on est convaincus que cette force-là, elle est la plus puissante, puisqu'elle est essentiellement basée sur la conscience et la compréhension et l'exigence d'un monde sans nucléaire, d'un monde qui sorte enfin de l'obscurantisme.
D'autant plus que quand bien même nous arrêterions instantanément le nucléaire dès cet instant, est-ce que d'un point de vue écologique, ce n'est pas trop tard ? L'air, l'eau, les sols sont contaminés. Donc en fait, ce serait juste, enfin je dis juste, c'est déjà énorme, pour éviter une explosion nucléaire, la fusion d'un réacteur ?
Alors, non seulement ça permettrait d'éviter la catastrophe nucléaire, effectivement, mais surtout ça arrêterait la dissémination et la contamination quotidienne, puisque chaque installation nucléaire a des autorisations de rejet par l'administration, par la préfecture ou par le gouvernement, a des autorisations de rejeter de la radioactivité dans l'air nuit et jour, dans l'eau nuit et jour, et cette radioactivité porte atteinte à notre santé et au territoire. Donc arrêter toutes les installations nucléaires, pas uniquement les réacteurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est arrêter la contamination de notre air et de notre eau. Évidemment, on sait que malheureusement, avec les déchets, c'est pas gagné.
Alors, il y a eu une grosse catastrophe qu'on connaît, Fukushima. Qu'est-ce qui a été fait après cette catastrophe dans le sens d'une prévention, justement, d'une future catastrophe ?
Alors, malheureusement, rien au niveau de la prévention. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'écart, du décalage entre les discours officiels et puis la réalité concrète, quoi. C'est-à-dire que depuis la catastrophe de Fukushima, les technoscientistes et les pouvoirs essayent à tout prix de calfeutrer les brèches. Alors à la fois du point de vue matériel, concret, puisque les réacteurs ont fondu, puisque la radioactivité continue à se disséminer dans l'eau et dans l'air. Donc ils essayent tant bien que mal de remédier à tout ce qui a été ébranlé et tout ce qui est détruit. Mais ça va prendre 20 ans, disent-ils. Alors vous imaginez, 20 ans de... Pendant ce temps-là, ça continue à fuir, quoi, hein, la radioactivité. Et donc, ils ont tenté surtout de colmater les brèches au niveau de la population pour pas qu'elle s'affole et qu'elle prenne des dispositions radicales, à savoir, effectivement, en finir avec le nucléaire. Alors, il y a une majorité de Japonais qui est évidemment favorable à l'arrêt du nucléaire. Malheureusement, le gouvernement japonais nouvellement élu, lui, se prononce pour la reprise du nucléaire, c'est-à-dire on est en plein obscurantisme et fanatisme.
Alors là, vous avez fait déjà plusieurs chaînes humaines, on le sait. Actuellement, vous voulez faire cette marche, donc une action militante encore. Pourquoi avoir changé de stratégie ?
Alors nous, on a, au niveau du collectif antinucléaire de Vaucluse, le CAN 84 et de la coordination antinucléaire sud-est, on n'a pas changé de stratégie. C'est-à-dire qu'on a... On a participé à ces chaînes humaines, on n'en était pas à l'initiative, mais on a toujours pensé que ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est du point de vue médiatique, d'avoir éventuellement quelques retombées médias. Mais on pense que ça ne sert à rien de se retrouver entre gens convaincus. Et c'est quand même de cela dont il s'agit avec les chaînes humaines. Et puis, c'est se faire plaisir. On se retrouve une journée ou un après-midi. Et puis voilà, on est entre gens convaincus. On rentre chez soi et on recommence. Donc nous, on n'est pas du tout sur cette position depuis notre création. On est sur la position simple et à notre avis plus efficace. C'est d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des salariés, à la rencontre des populations dans les villes et villages. Et puis d'engager la discussion, de donner de l'information et de voir ce qu'on peut faire ensemble pour inverser la situation.
Alors une marche de 12 jours, c'est toute une organisation. C'est quoi la logistique d'une telle action ?
Alors la logistique, c'est des bonnes volontés. C'est effectivement un regroupement de femmes, d'hommes, de jeunes et de moins jeunes qui décident à un moment donné de consacrer un certain temps de leur vie et de leurs loisirs et de leur temps libre pour organiser d'une façon bénévole ces 12 jours de marche. Alors effectivement, c'est beaucoup de choses à s'occuper. Ça va de la petite fourchette pour la cantine à l'affiche à concevoir et à faire imprimer. Ça va de la fabrication de toilettes sèches aux lettres adressées aux élus pour les rencontrer. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, d'énergie humaine. Voilà, le cœur de notre démarche et de notre action, c'est l'humain.
Le plan des étapes, tout a été fait. Vous allez dormir où ? Chez l'habitant ? Comment ça se passe ?
Oui, alors on a sollicité évidemment toutes les collectivités publiques locales, là où on fait des haltes, pour qu'elles mettent à disposition des moyens, une petite assistance qui n'est pas énorme, qui est simplement d'avoir effectivement un point d'eau et de quoi dormir, se reposer. Force est de constater que toutes les collectivités locales, toutes les municipalités, à l'exception d'une ou deux, ont refusé de nous accueillir, ce qui illustre bien comment le lobby nucléaire a réussi à pervertir à la fois toute la vie démocratique en France et en même temps les institutions dites représentatives. Alors, donc, ayant sollicité ces municipalités et devant leur refus, à l'exception d'une ou deux, donc on a sollicité évidemment des amis, notamment des agriculteurs bio ou des gens qui ont des terrains. Et puis on a pris le parti pris aussi de se réapproprier l'espace public. C'est-à-dire que là où effectivement on n'a pas de lieu d'accueil, eh bien on occupe l'espace public pour la nuit. Et puis on fait acte, je dirais, de réappropriation citoyenne de lieux qui ont été privatisés.
J'imagine qu'il y a un noyau dur. Vous êtes combien à peu près ?
Au niveau du CAN 84, globalement, on est 160 personnes. Au niveau du collectif d'organisation de la marche, on est une dizaine.
Donc il y aura des gens qui vont se joindre à vous
Oui, alors ensuite, les marcheurs et marcheuses, évidemment, ça, comme la marche dure 12 jours, certains vont faire toute la durée de la marche. et d'autres personnes peuvent venir qu'un après-midi, qu'une matinée, faire quelques kilomètres, ou nous apporter de l'eau, ou venir discuter lors des points rencontres.
Alors ce combat, que vous appelez contre ceux que vous appelez les nucléocrates, va toucher qui ? Les élus locaux, les collectivités, les médias, qui ?
Alors, je dirais tout le monde, puisque en fait, effectivement, il s'agit de briser le mur du silence, de briser l'omerta, pour apporter un air nouveau, un peu d'oxygène dans cette chape de plomb qui nous a phagocyté depuis 50 ans. Donc, effectivement, on va traverser des villes et des villages, on va aller à la rencontre des populations. Donc, on sera accompagné d'orchestres, de musique, etc., pour créer une petite ambiance sympathique. On remettra évidemment des tracts, et puis on engagera la discussion avec qui veut dans les villes et villages. Et on profitera de ce moment-là pour rencontrer ou tenter de rencontrer le maire ou les élus de la ville ou du village concerné, lui remettre un dossier sur ce qu'est le nucléaire, parce qu'on s'est aperçu malheureusement que les élus, bien souvent, sont très, 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 très ignorants du nucléaire et de la réalité du nucléaire, c'est-à-dire qu'ils reproduisent un schéma de pensée qui a été inculqué, mais sans s'être particulièrement penché sur la question du nucléaire. Donc on essaiera de les rencontrer et de faire en sorte que leur conseil municipal adopte des vœux, adopte des motions demandant l'arrêt du nucléaire.
Alors j'en reviens à mon scepticisme de départ. Est-ce que c'est pas une goutte dans la mer, quoi ? Avant de changer les esprits, ça va être dur.
Oui, mais vous savez, il y a une image comme ça qui est l'image du colibri, quoi. L'image du colibri qui amène sa goutte d'eau, et puis un deuxième colibri amène sa goutte d'eau, et puis à la longue, ça crée un lac, et ce lac qui ensuite il nourrit et il permet de vivre pour des millions de personnes, quoi.
Oui, mais j'ai bien peur que votre arrêt immédiat, ça sera pas immédiatement, quoi.
Alors oui, effectivement, de poser cet objectif là, on a conscience qu'on heurte la bien-pensance, qu'elle soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, hein, parce qu'on a été habitué depuis des décennies à surtout être dans le consensus mou, surtout ne pas effrayer, surtout être accepté, acceptable. Nous, on ne cherche pas la reconnaissance par le lobby ni par les institutions. On n'a rien à vendre, on n'a rien à défendre, on n'a pas d'ambition politique, on n'a pas de prise de pouvoir à effectuer. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter le crime nucléaire. Donc effectivement, l'objectif est ambitieux, mais c'est le seul réaliste.
Vous avez déjà fait une campagne de sensibilisation Place des Carmes à Avignon, j'ai su, pour annoncer votre action. Ça s'est bien passé ?
Oui, on a été assez agréablement surpris par les gens qui se trouvaient sur le marché de la Place des Carmes, qui venaient bagnauder ou faire une ou deux bonnes affaires. Et donc, on était accompagnés par le groupe de musiciens Les Buraleurs, qui viennent de Bure. Bure étant une ville au nord de chez nous, on va dire, et dont le gouvernement et les nucléocrates ont décidé d'en faire une poubelle nucléaire, c'est-à-dire d'accueillir tous les déchets. Évidemment, la population là-haut est contre. Et donc, un groupe de musiciens est venu, Place des Carmes, pour créer un peu d'animation. Et c'est vrai que Place des Carmes, donc, on a à la fois discuté et remis de l'information, et on a été plutôt bien accueillis. C'est-à-dire qu'on sent que depuis maintenant la catastrophe de Fukushima, quelque chose se passe dans la population.
Alors, parlez-nous de ce triangle de la mort. Ça pourrait être le titre d'un film. Ou...
Oui, c'est malheureusement, oui. Effectivement, très parlant. Alors, pourquoi le triangle ? Bah, tout simplement parce que géographiquement, ça forme un triangle. Hein. Cadarache se trouve dans les Bouches du Rhône. Alors, j'en dirai un mot après sur Cadarache.
Oui.
Le Tricastin se trouve à la fois en Vaucluse et en Drôme. Et puis Marcoule se trouve dans le Gard. Donc ça forme un triangle qui est le triangle de la mort dans cette vallée Rhône-Durance, en fait, qui est la plus nucléarisée. Alors pourquoi de la mort ? Bah parce que ça concentre donc un nombre incroyable d'installations nucléaires. Alors pas uniquement des réacteurs nucléaires, mais aussi toute une série d'installations qui préparent l'uranium, qui fabriquent l'uranium, qui recyclent l'uranium. C'est à la fois des installations nucléaires et chimico-nucléaires. C'est aussi des centres de recherche, des laboratoires du commissariat à l'énergie atomique. À Cadarache, par exemple, il y a 19 installations nucléaires de base, c'est-à-dire 19 entités qui génèrent de la radioactivité, qui travaillent sur le nucléaire. Et d'ailleurs, quand je dis nucléaire, il faut s'entendre sur les mots. Là aussi, on s'est fait avoir depuis 50 ans, c'est-à-dire que la technostructure, les dirigeants nous ont imprégnés, ont élaboré déjà tout un langage, tout un lexique de termes, mais quand on parle de nucléaire, il s'agit de destruction atomique, de destruction de l'atome. Voilà, donc cadarache, 19 installations de base nucléaires, civiles et militaires. Parce qu'il faut aussi savoir que nucléaire, civil et militaire, c'est intimement lié. Le nucléaire civil n'est que l'avatar du militaire. Au Tricastin, c'est 12 installations nucléaires, en plus de la centrale nucléaire et de ses 4 réacteurs. À Marcoule, c'est le haut lieu de la fabrication de la bombe atomique. Donc avec des laboratoires du CEA, des anciennes structures qui ont servi à élaborer la bombe atomique, avec des fûts qui fuient, qui ne savent pas que faire, ils ne savent pas comment s'en dépêtrer. Tout ce qu'on nous a indiqué comme étant la super technologie, en fait, ce sont des amateurs et des bricoleurs.
Vous pensez que le nucléaire civil, c'est pour faire avaler la pilule du nucléaire militaire ?
Ah ben, c'est pas tant pour faire avaler la pilule, c'est surtout que historiquement, le nucléaire s'est développé sur la bombe atomique. Les premiers éléments nucléaires ont été constitués et construits aux États-Unis en 1939, hein, dans ce qu'on a appelé le projet Manhattan, hein, qui était le projet des États-Unis de mettre au point une bombe atomique et de la larguer sur des populations civiles. C'est ce qui a eu lieu malheureusement à Hiroshima et Nagasaki en 1945 au mois d'août. Et donc, en fait, le nucléaire civil n'a été développé qu'après coup, qu'après la bombe atomique, qui a été aussi mise au point en France, en Union soviétique et en Grande-Bretagne. Et donc, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait beaucoup de choses générées, que ça générait de la chaleur, et que cette chaleur, peut-être, on pouvait en faire quelque chose. Et donc, c'est à partir de là qu'ils se sont dit, ces technocrates, hein, de la scientiste, se sont dit, bah, tiens, cette chaleur, on va essayer d'en faire quelque chose pour du business, quoi. Et puis, effectivement, ça sera le moyen de faire accepter la bombe atomique et la menace sur les peuples.
Quel pourcentage représente l'électro-nucléaire, à peu près ?
Ah bah, au niveau mondial, c'est autour de 3% de l'énergie totale consommée.
Peu.
C'est ridicule,
il faut savoir.
Voilà, c'est complètement ridicule. Il faut savoir que sur la planète, 95% des pays fonctionnent sans le nucléaire et se développent et vivent sans le nucléaire et produisent de la chaleur et produisent de l'électricité sans le nucléaire. C'est-à-dire que, quelque part, la France est une aberration.
Donc, en fait, les risques, le prix est cher, quoi, à payer.
Ah bah c'est avec la destruction atomique, c'est la façon la plus idiote de chauffer de l'eau et la plus dangereuse. Parce que, là encore, il faut rétablir la vérité, le nucléaire n'est pas une énergie. La destruction atomique, c'est un mode technique pour chauffer de l'eau. Une centrale nucléaire, c'est ça, c'est de l'eau qu'on chauffe, qui fait tourner un alternateur un peu comme une dynamo de vélo, et qui en sortie va produire un peu d'électricité. C'est-à-dire que pour chauffer cette eau, dans tous les autres pays, il y a des dizaines d'autres solutions pour chauffer de l'eau. Il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a le charbon, il y a aussi le solaire, il y a la géothermie, etc. Le nucléaire, la destruction atomique, c'est effectivement la technologie la plus idiote et la plus dangereuse pour chauffer de l'eau.
Déjà avoir une énergie par la destruction, déjà ça veut tout dire, par la destruction.
Et oui, c'est pour ça que c'est le principe même du nucléaire et donc de la destruction atomique qui est en cause. Il ne s'agit pas de l'aménager, on nous dit ça peut s'améliorer, on peut sécuriser. Non, c'est insécurisable parce qu'effectivement ça touche au noyau de l'atome, l'atome de vie, ce qui constitue nos corps, le vivant.
Alors avant de continuer et de parler, si vous le voulez bien, de la spécificité de chacun des sites qui forment le triangle de la mort, je vous propose d'écouter un de vos morceaux de musique. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors je crois que le premier c'est Manu Chao.
La croisade des enfants.
Voilà, la croisade des enfants, c'est une reprise d'une chanson d'Higelin et je trouve que c'est une très belle chanson parce qu'elle place effectivement les enfants au cœur de notre société et surtout place la rébellion de l'enfance, son questionnement et son souhait de ne pas devenir comme les plus anciens croutons. Donc, c'est porteur d'avenir.
Allons-y. Thank you.
chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le cheminement.
Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie.
Du collectif anti-nucléaire de la région. Si nous parlions des trois sites en question, là, nucléaire, Cadarache, Tricastin et Marcoule. Alors vous disiez que à Cadarache, le danger était énorme. La majorité des installations n'étaient pas aux normes.
Oui, alors c'est ce que je vais évoquer pour Cadarache, malheureusement, c'est aussi valable pour le Tricastin et Marcoule. C'est-à-dire que, par exemple, à Cadarache, sur les 19 installations nucléaires de base civile et militaire, donc des installations nucléaires de base secrète, il n'y en a que 3 qui sont aux normes antisismiques. Tricastin, aucune installation n'est aux normes antisismiques. Marcoule, pareil. Or, ces 3 sites sont implantés sur des failles sismiques. Et des failles sismiques qui ne sont pas endormies, c'est-à-dire que, encore au mois de septembre dernier, non loin de Cadarache, donc à vol d'oiseau, c'est tout près, c'est 10-15 kilomètres à Manosque, il y a eu un tremblement de terre, quoi. Au Tricastin, il y a des mini-grappes de séismes qui ont lieu ponctuellement. L'été dernier, ça a secoué un peu au-dessus, à Cruas, dans la région de Cruas, en Ardèche. Voilà, donc on est vraiment implanté, ils ont implanté ces sites nucléaires. C'est au lieu du danger, ils les ont implantés sur des failles sismiques. Alors pourquoi là ? Bah, tout simplement parce qu'à l'époque, quand ils ont conçu les choses, ils s'en foutaient un peu. Ce qui leur importait, c'était surtout d'être à côté de rivières, à côté d'eau, de façon à pouvoir prendre de l'eau pour refroidir leurs installations et puis surtout pouvoir rejeter leurs saloperies dedans.
Ouais. Alors quant au Tricastin, il y a eu dernièrement donc une explosion sur le site nucléaire. L'information n'a pas été tellement relayée. Le Tricastin, c'est l'une des plus vieilles centrales du pays.
Oui, alors l'accident électrique qui a eu lieu au Tricastin et effectivement n'est pas une explosion au sens nucléaire du terme, mais montre bien, c'est une explosion d'une ligne. Enfin,
il n'y a pas eu un court-circuit qui a entraîné l'arrêt d'un réacteur ?
Voilà, tout à fait. Il y a eu un court-circuit sur une sortie d'installation du réacteur.
Et ça entraîne...
Et malheureusement, voilà, le problème, ça illustre bien que s'il se passe quelque chose sur une sur la chaîne, hein, un des maillons de la chaîne de production d'énergie par la destruction atomique, ça entraîne tout. C'est-à-dire que la défaillance sur la ligne électrique a automatiquement engendré un risque pour le réacteur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est simple de comprendre. Le réacteur, c'est quoi ? C'est une réaction atomique qui va chauffer de l'eau. L'eau est sous pression, ça va faire tourner une dynamo qui, en fin de course, va sortir un peu d'électricité. Quand je dis un peu, j'y reviendrai, c'est vraiment un peu. Et donc, évidemment, si cette électricité ne peut plus s'évacuer et que derrière, il y a la réaction atomique qui continue et qui met de la pression, bah évidemment, le risque, c'est que ça explose. Donc, le réacteur a dû être mis à l'arrêt. Un réacteur ne se met pas à l'arrêt en une fraction de seconde. Il faut un certain nombre de minutes et de quarts d'heure. Voilà, exactement. Donc pendant ce temps-là, effectivement, on est dans une situation critique où si les choses ne se passent pas bien, eh bien, il y a le risque d'explosion. En tout état de cause, il y a forcément eu, de notre point de vue, un relâchement de radioactivité par la cheminée. Alors, pas les tours de refroidissement, ça c'est l'eau, c'est la vapeur qui génère d'ailleurs des gaz à effet de serre. Non, non, il existe une cheminée effectivement pour rejeter la radioactivité au long des réacteurs.
Et dans ces cas-là, que fait la SN, l'autorité de sûreté nucléaire ?
Ben dans ce cas-là, alors déjà, elle est plus ou moins prévenue rapidement. Là, a priori, ça a été dans les délais. Et puis, elle dépêche sur place des inspecteurs qui vont, avant toute chose, écouter ce que disent les exploitants. Et puis, à partir de là, essayer de mener une petite enquête. En l'occurrence, pour l'ASN, bien souvent, ils reprennent la proposition de classement des exploitants nucléaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce n'est pas l'ASN qui fixe le niveau de dangerosité de l'accident ou de l'incident. C'est l'exploitant nucléaire qui propose de classer cet accident à tel niveau sur l'échelle INES. Et évidemment, vous comprendrez aisément qu'on essaye de classer tout ça au minima, au plus bas.
Si on regarde l'histoire du nucléaire, en fait, c'est une succession d'incidents et d'accidents. Voilà, répétition.
C'est assez phénoménal. Par exemple, c'est même incroyable. N'importe quelle autre industrie aurait déjà vu toutes ses installations fermées si ça n'avait pas été le nucléaire. En 2010, par exemple, il y a eu plus de 1000 incidents nucléaires en France. On ne parle pas d'un pays arriéré qui n'aurait pas une bonne technologie. Nous, paraît-il, on a la meilleure technologie nucléaire du monde. En Vallée du Rhône, en 2010, il y a eu 250 incidents nucléaires sur les installations.
C'est énorme.
C'est énorme. Et ce que j'évoque là pour la Vallée du Rhône, c'est valable pour les 19 sites nucléaires implantés en France et les 58 réacteurs existants en France.
Tricastin, c'est le site nucléaire le plus étendu de France devant la Hague, la Manche, au bord de la Manche. C'est énorme.
Oui, alors Tricastin, c'est à la fois lié au nucléaire militaire et en même temps au nucléaire civil. Et ça concentre à la fois des installations nucléaires proprement dit et tout un cycle de chimie nucléaire. Et effectivement, ça s'étend sur toute une série de communes, à la fois du Vaucluse et de la Drôme. Et ça n'est pas qu'une centrale nucléaire civile électrique. C'est effectivement des laboratoires de recherche du CEA et des déchets nucléaires militaires qui sont stockés d'une façon un peu hasardeuse, puisqu'ils sont à ciel ouvert et le long du canal quoi, hein, de Donzère. Et puis, c'est de la fabrication, c'est l'usine Georges Besse 1 et Georges Besse 2, dite d'enrichissement de l'uranium. C'est-à-dire que l'uranium qui est extrait au Niger dans des conditions les plus horribles pour les populations locales, eh bien, ça n'est jamais que du minerai qu'il faut enrichir. Et enrichir, ça veut dire qu'on peut l'enrichir aussi bien pour mettre dans les centrales nucléaires que pour en faire la bombe. Et les centrales nucléaires électriques ont pour mission de fabriquer le tritium, un des éléments nécessaires à la bombe atomique.
C'est énorme le nombre d'employés qu'il y a dans ce genre d'endroit, 5 000 employés au Tricastin.
Oui, en même temps, ce n'est pas énorme parce que ça va effectivement de l'ingénieur, du pilote du réacteur, à la femme de ménage, au livreur de pizza. Enfin, j'exagère, mais c'est...
Voilà, balayeur.
Voilà, au veilleur, etc. Donc, en fait... quand on regarde bien la structure du salariat et des personnels, on s'aperçoit que finalement le nucléaire emploie pas tant de spécialistes et de techniciens et d'ingénieurs que cela, mais c'est surtout beaucoup d'entretiens. Alors attention, ce sont des métiers nobles, hein, je veux dire la chaudronnerie, la métallurgie, ce sont des métiers nobles évidemment, mais en termes de pure technique nucléaire liée à la destruction atomique, il y a très peu de spécialistes. Et donc tous ces métiers-là, ils peuvent très bien être recyclés, repositionnés avec des formations complémentaires pour s'orienter vers d'autres techniques et d'autres technologies.
Tricastin, c'est vers Saint-Paul-les-Trois-Châteaux.
C'est ça, c'est Bollens, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, La Palue, Pierre-Latte.
Les Gaulois de l'époque qui habitaient sur le bord du Rhône, ils doivent s'arracher les cheveux.
Oui.
Et se retourner dans leur tombe.
Oui, c'est ça. En plus, historiquement, c'est un haut lieu d'implantation des peuples premiers de la vallée du Rhône. Hein, et malheureusement, effectivement, leurs ossements doivent être quelque peu radioactifs.
C'est terrible.
Ouais.
Et Marcoul, alors, ça a été créé en 1956, en bordure du Rhône, entre Montélimar et Avignon. C'est aussi 5 000 personnes hein, qui y travaillent.
Oui, alors Marcoul, donc c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le haut lieu de la fabrication de la bombe atomique. Donc c'est là qu'a été développé et produit les éléments nécessaires à la bombe atomique. C'est donc des laboratoires du commissariat à l'énergie atomique qui avaient pour fonction, donc pour mission à l'époque, de mettre au point la bombe atomique et d'étudier éventuellement d'autres applications civiles. Donc ce sont des laboratoires, c'est des lieux d'essais nucléaires militaires et donc de production de déchets et de matériaux radioactifs. C'est aussi Areva donc qui met là au point et qui développe et qui produit le MOX. Le MOX, c'est un nouveau combustible qui alimente les centrales nucléaires. Et en l'occurrence, c'est celui qui a été à Fukushima Daiichi, et qui équipe aussi la moitié de nos centrales en France de 900 mégawatts. C'est-à-dire que c'est un combustible de fou, puisque c'est un mélange d'uranium, d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium. Le plutonium, c'est la bombe atomique. Mmh. C'est-à-dire que c'est le plus dangereux des combustibles créés par l'homme. C'est complètement artificiel. Le plutonium n'existe pas à l'état naturel. C'est une pure création de l'esprit humain, démoniaque.
Voilà. Ah oui.
Et donc, ils tentent de se servir de ce plutonium militaire pour accélérer les réactions de chauffage d'eau dans les réacteurs et pour écouler tous les stocks qu'ils ont en trop, parce qu'il y a eu un tel nombre de mètres cubes de déchets radioactifs produits qu'il faut les recycler. Et comme depuis 50 ans, ils nous disent « on va trouver la solution » et ils ne la trouvent pas, donc ils ont créé ce MOX que d'autres pays qui fabriquaient, comme la Belgique et l'Angleterre, ont arrêté de produire tellement c'est immaîtrisable.
On dirait que c'est l'application d'expériences de savants fous, finalement.
Je pense qu'on est effectivement dans ce que disait, c'est Paracelse, je crois, qui disait ça, « Science sans conscience est la ruine de l'homme ». Et effectivement, on a glissé de ce qui pouvait apparaître comme étant une démarche scientifique, technique, à du scientisme, à de l'obscurantisme et à du fanatisme.
Où en est le projet ITER, ce réacteur expérimental très très coûteux en construction, ouais. Je crois à Cadarache, non ?
Oui, alors voilà, Cadarache doit accueillir le projet international ITER. Alors c'est effectivement un projet expérimental visant à voir si on peut reproduire l'énergie du soleil pendant une fraction de seconde. Ça n'a pas pour vocation de produire de l'électricité. C'est purement expérimental, ça mobilise des centaines de millions d'euros au niveau mondial, au niveau de l'Europe, au niveau de la France. C'est complètement démentiel dans la mesure où, en plus, les collectivités locales doivent mettre la main à la poche, et ça a été le cas malheureusement du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui finance ITER, donc auditeurs, auditrices, sachez que vous participez par vos élus, par l'intermédiaire de vos élus, à cette monstruosité. Et malheureusement, c'est ce gouvernement en place, socialo-Europe Écologie, qui a pris le décret et qui a donné le feu vert définitif pour le lancement d'ITER.
Moi, j'ai l'impression que ce soit un gouvernement ou un autre, c'est un peu, il y a une marche vers quelque chose qu'on ne peut pas arrêter.
Oui, voilà. C'est pour ça que nous, au niveau du CAN 84 et de la coordination antinucléaire du Sud-Est, on dit que la question du nucléaire transcende les questions politiques et de sexe et d'âge et de couleur de peau. Ça concerne vraiment tout le monde. Et on s'aperçoit que depuis 50 ans, que ce soit les élus de gauche comme de droite, d'extrême droite comme d'extrême gauche, malheureusement, ils sont tous formatés pour se soumettre à la volonté des lobbies nucléaires. Et effectivement, on voit qu'il y a une continuité de prise de position. C'est pour ça qu'on croit que c'est une aberration, comme le font certains, de demander au gouvernement de prendre une décision de sortir à terme du nucléaire. Non, c'est vraiment la population qui pourra imposer cela.
Et qui sont les bénéficiaires du nucléaire? Areva, EDF?
Alors en France, on a les trois grands commissariats à l'énergie atomique. Historiquement, c'était ça. C'était lui qui avait en charge de développer le nucléaire en France. On a Areva, qui est l'ancienne Cogema, qui était une structure publique, effectivement, en charge de produire le combustible nécessaire et puis de mettre au point un certain nombre de structures permettant le nucléaire civil. Et puis on a EDF, qui historiquement a été l'exploitant des installations nucléaires. Donc qui bénéficie? D'une part, c'est ces trois grandes entreprises qui ont toutes, hormis le CEA et encore, été progressivement privatisées. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on dit encore que EDF, c'est l'État est majoritaire et Areva, etc., il n'empêche qu'il y a des capitaux étrangers. Par exemple, il y a le Koweït, qui est propriétaire d'une partie d'Areva. Donc quand on nous parle aussi d'indépendance nationale, je ne sais pas si vous, il y aura une question là-dessus, mais on peut en rire.
Donc il n'y a pas d'indépendance?
Non, alors il n'y a aucune indépendance nationale, et ce depuis le début. D'une part, les techniques des centrales nucléaires, c'est une technique américaine, états-unienne. C'est-à-dire que la France exploite des licences de Westinghouse et de General Electric. Donc on est dépendant au niveau de la construction et de l'exploitation des États-Unis. Première chose, donc pas d'indépendance. Deuxième chose, tout notre minerai, tout l'uranium nécessaire à faire tourner ce cycle nucléaire provient de l'étranger.
Kazakhstan,
Niger notamment. Niger, ouais. Et dans des conditions d'exploitation odieuses pour les populations locales. C'est-à-dire que tout leur environnement, tous leurs modes de vie sont saccagés. Leurs terres sont polluées, leurs sources d'eau sont polluées, les troupeaux, puisque souvent ce sont des populations nomades au Niger. Donc tout leur territoire de vie, toute leur structure sociale de vie est perturbée, est attaquée et menacée par Areva qui exploite les mines d'uranium. Donc ça, c'est le deuxième élément. Hein. Premier élément, un...
Qui n'est pas des moindres.
Oui, qui n'est pas des moindres et qui montre que d'un bout à l'autre de la chaîne du nucléaire, tous les peuples en pâtissent.
Oui, oui. Et que fait-on aujourd'hui au niveau national du plutonium? Je sais qu'il y avait une poubelle nucléaire que l'on devait ouvrir, je crois, en Marne, en Haute-Marne et en Lorraine, non?
Oui. Alors, l'usine de la Hague vise justement à reconditionner, à essayer d'extraire de tous ces matériaux contaminés, radioactifs, essaye d'extraire, de recycler. Alors, ils appellent ça la revalorisation ou la valorisation. Là encore, attention
au
mot.
C'est
un joli terme. C'est-à-dire que de déchets nucléaires radioactifs pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, ils essayent d'en refaire un petit tas, je dirais, pour être réexploité et retraverser tout le pays de La Hague jusqu'à Marcoule, où là, on va reconditionner tout ça en faisant un peu de chimie nucléaire pour en faire du MOX qu'on va renvoyer dans les centrales nucléaires qui elles-mêmes vont produire des éléments, des radiocontaminants pour la bombe atomique, etc. En fait, ils se retrouvent et ils nous imposent aujourd'hui 1 500 000 m3 de déchets nucléaires dont ils ne savent pas que faire, alors que lorsqu'ils ont lancé le nucléaire, ils avaient dit « on va trouver la solution dans les 10 ans ». Or, on est 50 ans après le début du nucléaire et il n'y a pas de solution aux déchets nucléaires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un déchet, c'est pas un sac de plastique qu'on peut recycler. C'est de la radioactivité, c'est-à-dire une destruction atomique qui va durer 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, voire pour le plutonium, des millions d'années.
Alors pour redorer son image, les multinationales pollueuses, elles utilisent une technique qui s'appelle le greenwashing. C'est un anglicisme, c'est en fait une stratégie de communication qui n'a pas réellement d'impact écologique. Hein. C'est un peu plutôt un impact sur les esprits. L'exemple qu'on connaît là de McDonald's où on voit le M maintenant sur du vert, un fond vert plutôt qu'un rouge. C'est un bel exemple pour illustrer ça. Que fait justement le nucléaire pour redorer son blason ?
Oui, ben voilà, on constate que effectivement ils sont tellement honteux et ils ont tellement conscience de ce qu'ils font. Hein. Attention, ils savent ce qu'ils font et ils savent qu'ils nous contaminent, ils savent qu'ils détruisent la planète, ils savent qu'ils portent atteinte à la santé des populations, ils savent qu'ils contaminent la chaîne alimentaire et les territoires. Et évidemment, face à ça, ben, ils essayent d'élaborer des techniques de propagande, hein, appelons les choses par leur nom, de propagande visant à nous faire accepter et à nous faire quasiment adhérer à leur projet. Et évidemment, ils ne peuvent pas dire adhérer à quelque chose qui détruit la vie. Donc, ils vont essayer effectivement de verdir un peu les choses comme ça, en disant, en utilisant des arguments de « c'est le progrès, c'est la modernité, c'est la grandeur de la France, et puis on a des bonnes œuvres, regardez nos fondations, on aide le sport ». On participe par exemple à financer, c'est monstrueux, à financer la rencontre de l'athlétisme international de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réinverser ou de nous infliger une double peine. C'est-à-dire que non seulement ils nous contaminent, mais avec l'argent qu'on leur fournit, parce que nous sommes des consommateurs, avec l'argent qu'ils nous sucent sur notre dos, ils vont se donner une bonne conscience en disant « Regardez, on aide le sport, on a du mécénat, hein, on aide le sport, on aide la culture. » Par exemple, en Avignon, c'est quand même scandaleux, une exposition sur l'Égypte qui a lieu depuis maintenant 2 ans est sponsorisée par Areva. C'est-à-dire qu'il y a le logo Areva sur quelque chose qui est lié à l'histoire humaine depuis 5000 ans. Alors qu'eux, ils détruisent la vie, justement, par la destruction atomique.
Oui. Alors, vous parlez de qui quand vous dites « il » ? C'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, c'est qui ?
Historiquement, c'est 50 personnes en France. Hein. C'est-à-dire que 50 personnes, des technocrates, des gens de l'école des mines, des politiques, des militaires et quelques financiers ont décidé d'imposer le nucléaire au peuple français. Ces 50 personnes se sont réunies, n'ont jamais sollicité ni l'avis des élus, ni l'avis des populations, et ont dit on impose le nucléaire à la France. Voilà, quand je dis ils, et aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont pris le relais depuis les années 50, et qui continuent toujours à être dans les mêmes cercles technoscientistes et économico-politiques.
Alors la marche qui aura lieu du 15 au 26 avril prochain, c'est pour éveiller les consciences, si je comprends bien.
Oui, voilà, c'est pour donc briser le mur du silence, éveiller les consciences, montrer la réalité du nucléaire. Parce que le terrible avec la radioactivité, je le disais en entrée, c'est qu'elle ne se voit pas, elle ne se sent pas, elle n'est pas palpable. Si effectivement la radioactivité était glauque, si c'était noir, si ça sentait mauvais, aussitôt on dirait stop, pas une seconde de plus. Or, le crime est silencieux, je dirais. La radioactivité perpétue son crime sans qu'on s'en aperçoive. Mais pourtant, c'est là. Pour illustrer, qu'est-ce que c'est que la radioactivité ? Imaginez un billard avec des boules et les cannes pour frapper les boules de billard. Eh bien, on tape dans une boule. Cette boule va frapper 2 ou 3 autres boules qui elles-mêmes vont frapper d'autres boules et ainsi de suite. Et à chaque fois, imaginez qu'à chaque fois qu'une boule frappe une autre, il y a une partie de cette boule qui explose et qui part dans la nature, qui vient frapper votre organisme, qui vient frapper le mur, qui vient frapper la chaise. Le problème, c'est qu'en frappant, elle engendre aussi au sein de l'organisme le même phénomène. C'est-à-dire que...
Réactions en chaîne, en fait.
Des réactions en chaîne, voilà. Et donc, effectivement, cette marche qu'on va mener, qu'on va conduire, qu'on va réaliser là, pendant 12 jours, elle vise à rencontrer les gens pour informer de la réalité de la radioactivité et surtout de ses effets. Ses effets sur la santé, c'est très concret. Hein. C'est, la radioactivité, ce n'est pas un concept, c'est une réalité qui se traduit par des cancers, des leucémies, des atteintes à l'ADN, des maladies neuronales, des maladies cardiaques, etc. et qui conduisent ou à la maladie ou à la mort.
Alors quand on est informé et qu'on a la conscience éveillée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Arrêter de consommer de l'électricité ?
Alors on peut déjà réduire ses modes de consommation de façon à moins faire appel. Effectivement, aux ressources énergétiques. Et puis, on peut surtout se poser la question. Comment se fait-il qu'en France, pour avoir chaud, on utilise de l'électricité, alors que dans d'autres pays, on n'utilise pas d'électricité pour avoir chaud ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a conduit à croire, ou pourquoi nous sont-ils parvenus à nous faire croire que pour avoir de la chaleur, il fallait de l'électricité ?
Mais quelles sont les énergies alternatives qui sont souhaitables ? Parce qu'elles ont toutes des controverses. Hein.
Oui, alors... Il faut inverser la logique. C'est-à-dire qu'on est dans une société, depuis 50 ans, centralisatrice, centralisée, où toutes les décisions se prennent au niveau central par un petit noyau. Et c'est le cas, par exemple, de l'entreprise EDF ou de l'électricité. On a créé des grands réseaux centralisés, avec des grandes lignes de tension, à partir de points uniques de production. Nous, on pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus humain, c'est-à-dire revenir au plus près des gens, à la fois à partir de leurs propres besoins. Alors, quand je dis les gens, c'est les populations, les petites entreprises, les entreprises. Hein, c'est tous ceux qui ont des besoins. Les décisions doivent être prises là. Et elles doivent être prises là à partir des besoins réels et pas des besoins présupposés ou conditionnés. Et puis, à partir des ressources locales énergétiques. Par exemple, c'est évident que dans notre région... on a une potentialité de soleil beaucoup plus forte que dans le nord. Donc, a priori, dans notre région, je pense qu'on a intérêt à mixer des sources d'énergie renouvelable plus axées sur le solaire. Mais tout ça se discute. Et puis dans le nord, ça sera peut-être plus la géothermie. Et puis dans l'ouest, ça sera peut-être plus l'éolien.
Donc au cas par cas.
Alors au cas par cas, au plus près des besoins des gens, et en tout état de cause, avec le souci d'impacter le moins possible la vie et l'environnement.
D'accord. On arrive presque à la fin de notre émission, avant de passer le dernier morceau de votre choix. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ? Qu'est-ce que vous aimeriez encore rajouter ?
Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est simplement appeler les auditeurs, la population, à s'impliquer dans les affaires qui la concernent, et notamment dans ces éléments importants de défendre la vie, puisque c'est une marche antinucléaire pour la vie. Et puis leur dire, venez à la rencontre de ces citoyens qui vont faire l'effort de marcher pendant 200 kilomètres, de relier les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard. Vous pouvez venir ou pour la totalité de la marche ou pour une étape. Il y a des points de rencontre programmés ou le midi ou le soir. Vous pouvez venir apporter aussi un peu d'eau, un peu de jus de fruits, un peu d'aliments aux marcheurs et aux marcheuses. Et puis vous pouvez venir discuter et puis venir à la fête antinucléaire d'Avignon qui aura lieu le 21 avril à la Barthelas, où là il y aura des stands, des musiques, des projections vidéo et des débats.
Tout ça dans un esprit bon enfant, évidemment.
Oui, alors, on veut que la vie bouillonne. Donc, effectivement, c'est un esprit bon enfant, mais déterminé. On ne cédera pas.
Alors, qui est à l'origine de cette marche ? C'est Cannes 84 ou c'est la coordination antinucléaire du Sud-Est ?
Oui, mais là, en l'occurrence, c'est le Cannes 84, mais la coordination est dans le coup, évidemment.
D'accord. Donc, on rappelle, du 15 au 26 avril prochain, il y a une marche qui se fera entre les différents départements qui forment donc le triangle de la mort, Cadarache, Tricastin et Marcoule. Vous démarrez où ?
Alors, on démarre de Manosque,
Oui. Hein.
On franchit donc la Durance et puis on passe dans les Bouches-du-Rhône et on remonte vers le Vaucluse, on passe dans le Gard et on revient dans le Vaucluse.
Il y a des gens qui vont venir avec leur tente pour faire du camping, j'imagine.
Oui, oui, oui. Tout à fait, on peut venir à pied, à cheval, en roller, amener sa tente, dormir dans sa camionnette.
Ça risque d'être sympa quand même.
Oui, oui. L'an dernier, on avait fait déjà cette marche, c'était au mois d'août sous le Cagnard, c'était compliqué, mais c'était sympa. Et toutes les informations se trouvent sur notre site internet de la coordination anti-nucléaire sud-est.
Vous avez des numéros, des adresses à donner, des noms de sites.
Voilà, le site, c'est www.coordination-antinucléaire-sud-est.org. Voilà.
Et vous dites nucléaire parce qu'il n'y a pas d'accent sur le E.
Parce qu'il n'y a pas d'accent sur le E.
D'accord. Merci Jean Reveste.
Merci à vous.
C'était
merci
un plaisir.
À Radio Osmose.
Et puis alors donc votre dernier morceau, c'est Julien Prêtre. Alors le titre, il est génial. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Voilà. Au revoir.
Au revoir et merci.